Le Club de Tamani.
Le Club de Tamani.
Votre émission de tous les vendredis soirs sur Studio Tamani.
La culture.
Le sport.
La musique.
Les infos.
L'émission qui vous informe, cultive et divertit.
Très heureuse de vous retrouver, fidèles du Club de Tamani. Bienvenue au rendez-vous de la culture sur Studio Tamani. Ce soir, nous nous intéressons à la scarification. Oui, c'est très savamment tracé sur la tempe, le front ou d'autres parties du corps qui ne servaient pas juste à orner. Ils avaient des significations particulières. Un langage que seuls les avertis pouvaient interpréter.
Pourtant, aujourd'hui, force est de constater que le monde change. Sous la pression de la modernité, des nouvelles normes esthétiques et des enjeux de santé, ce langage ancien semble s'effacer.
Qui représentait la scarification dans la culture malienne?
Comment a-t-elle traversé les siècles pour arriver jusqu'à nous?
Est-ce un art en voie de disparition ou une tradition qui se transforme?
Pour en parler, nous recevons Dr Bala Djanka, enseignant, chercheur et écrivain.
Vos chroniques habituelles et de la bonne musique sont inscrits au programme de ce numéro présenté par Lala Diarra Touré et Aïssata Diarra à la mise en onde de Nohom Djiré. Merci pour votre constante fidélité. Est-ce qu'Antabla Adana?
Eh bien, dis donc, j'en connais qui sont véritablement d'attaque pour un week-end qui tiendra toutes ses promesses.
En tout cas, je t'invite à suivre mon regard de très près. Bonsoir déjà, Aïcha. Comment vas-tu?
Bien, et toi?
Alhamdoulilah, je ne me plains pas à voix haute.
Ok, alors nous commençons avec les titres L'accident de Ali Farka Touré, n'est-ce pas?
Ça commence fort ce soir.
Ah,
on
oui.
écoute. Il a dit à Barama. Ah, mais c'est sensé, hein?
Ah oui, ça.
Et ça s'appelle L'accident chanté par la légende Ali Farka Touré. Je sais que les tontons et les tontines nostalgiques de la vieille bonne époque ont apprécié. Mm-hmm. Et le titre est sorti en 1994, Aïcha.
Là, c'est ce qui nous conduit à la revue de la presse.
La revue de la presse.
Et pour ce vendredi, nous avons l'honneur et le plaisir d'accueillir Adama Amadou Haïdara pour la page consacrée à la revue de la presse. Adama, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir Aïcha.
Alors qu'est-ce qui a fait la une des journaux cette semaine, Adama?
À la une des journaux, la limitation de la validité des crédits et bonus d'appels de téléphonie mobile. Des voix s'élèvent de plus en plus au sein des associations des consommateurs pour dénoncer le coût élevé et la courte durée de la connexion et de l'appel téléphonique au Mali. Ils dénoncent également la tarification du répondeur. Infomatin barre à sa une, les Maliens face aux télécoms, la guerre commence. Il y a longtemps, le consommateur malien a été la vache à lait silencieuse des géants des télécoms. L'usager subissait entre crédits volatiles, bonus éphémères et tarifs Internet défiant toute logique économique, écrit ce quotidien privé qui rappelle que le collectif Internet Juste au Mali a dressé une demande formelle à l'AMRTP, Autorité malienne de régulation des télécommunications, des technologies de l'information et de la communication et des postes. Selon le journal, l'organisation réclame une baisse des tarifs, la suppression des délais de validité courts sur les forfaits et une meilleure qualité de service. Orange Mali SA annonce déjà un changement, écrit Bamadanet. Selon le site, la société a indiqué avoir pris des dispositions importantes pour la suppression de la limitation de validité des crédits et bonus d'appel, a rapporté ce journal en ligne. Le site Mali 24 renchérit. Orange Mali SA a rapidement tenté de désamorcer la crise face à cette pression institutionnelle et populaire. Car au-delà de la question des crédits expirés, c'est surtout le coût de l'Internet qui cristallise les frustrations. Jugés exorbitants, les tarifs pratiqués pratiqués au Mali comparés à ceux des pays voisins comme le Sénégal ou la Côte d'Ivoire, où les offres sont perçues comme plus abordables, fustige Mali 24. L'Essor explique que cette mesure de l'opérateur de téléphonie a été adoptée durant la phase préliminaire d'une enquête de la DGCC, Direction générale du commerce, de la consommation et de la concurrence. À en croire le quotidien national, cette structure publique a informé avoir reçu une plainte de l'ASCOMA, Association des consommateurs du Mali, portant notamment sur la perte de crédit et de bonus d'appel à l'expiration de leur durée de validité. Et le directeur général de la DGCC d'inviter les autres opérateurs de téléphonie à s'inscrire dans la même dynamique qu'Orange Mali, dans l'intérêt des consommateurs, rapporte l'Indépendant. Une manière, selon le journal, d'harmoniser les pratiques et d'éviter toute distorsion au détriment des abonnés. Et c'est ce qui referme la revue de la presse de cette semaine.
Merci beaucoup, Anna Mamadou Haïdara. Nous te retrouverons au cours de cette émission pour la version en langue nationale bamanankan de cette revue de la presse.
Maintenant, Lola, partons avec la rubrique Éducation aux médias.
Les coulisses de l'info.
Et ce soir, Aïcha, la rubrique éducation aux médias s'intéresse à la radio.
Tout à fait, Lala. Média de proximité et écouté par des millions de citoyens, les Maliens croyaient et consommaient sans modération les infos données par la radio. Mais aujourd'hui, beaucoup s'en méfient.
Qu'est-ce qui est donc à l'origine de ces retournements de veste? Est-ce que les radios font de l'éducation aux médias pour maintenir les auditeurs?
Écoutons Tchona Machekone, journaliste formateur sur la problématique, Lala.
Pourquoi aujourd'hui, certains se méfient des infos données par la radio? Est-ce que les radios même font de l'éducation aux médias pour fidéliser les auditeurs?
Merci. La radio est un outil premier d'information, de sensibilisation, de culture générale. Votre question renvoie à deux interrogations. Pourquoi hier la radio, outil d'information adéquate, vérifiable, équilibré, aujourd'hui, pourquoi leur contenu pose problème? Cela interpelle beaucoup nous les journalistes. Est-ce que dans notre art, notre démarche de collecte, de traitement et de diffusion, nous le faisons avec la même conscience professionnelle en termes d'éthique et de déontologie. Ensuite, quel est le contenu qui amène le public à douter, mais à s'interroger sur ce que nous leur livrons en termes d'information? Il faut prendre conscience que hier, Radio Mali, c'était une voix, un canal. Aujourd'hui, il y a près de 600 radios de proximité et chacun a son contenu, chacun a son traitement, parfois de la même nouvelle. Ça renvoie au pluralisme. Ce n'est pas la prolifération des radios et des outils d'information que je condamne, jamais, parce que c'est la libre expression, mais je condamne la qualité du travail que nous, les professionnels, nous livrons. C'est à nous de nous interroger, est-ce que nous ne badinons pas avec notre crédibilité dans le traitement de l'information? La première matière pour un journaliste, le fond de commerce, c'est la crédibilité. Et la crédibilité, elle est dans le professionnalisme. Faites des émissions formidables, vérifiables, des informations inattaquables, sortez des fake news, vous devenez crédible. Alors, ce qu'on appelle éducation aux médias, c'est éducation à la perception du contenu des médias. L'auditeur ne peut pas échapper au mensonge si on lui martèle le mensonge nuit et jour. Mais il finira par savoir qu'on lui dit faux.
Quels peuvent être les avantages pour les radios de faire de l'éducation aux médias?
Les avantages sont énormes, madame. Être journaliste, c'est faire avec sérieux, professionnel, tous les sujets qu'on traite. Être un homme crédible, même dans nos sociétés, c'est une valeur, c'est une confiance, c'est un honneur. Il y a tout à gagner en étant crédible. Et aujourd'hui, attention, on tombe dans la manipulation, dans la sous-information, alors qu'il n'y a jamais eu autant de moyens pour vérifier une information. Alors faisons l'effort intellectuel.
De retour dans ce studio, nous venons d'écouter Tchona Machekone sur la méfiance qui s'est installée entre les auditeurs et la radio au fil du temps. Je rappelle qu'il est journaliste et formateur sur la problématique.
Tout à fait, Lala. Et nous allons faire de la place pour l'invité culture.
L'invité culture.
Et celui que nous recevons ce soir est Dr Baladjanka, il est enseignant-chercheur. Ses recherches portent principalement sur la sociolinguistique, l'onomastique, les langues nationales du Mali et la communication interculturelle.
Lala, il est également auteur et co-auteur de plusieurs articles scientifiques.
Monsieur Djanka, bonsoir.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation.
Merci, c'est moi qui vous remercie.
Merci. Bien. Alors, pour commencer, vous pouvez nous expliquer ce que représentait traditionnellement la scarification dans nos sociétés.
D'accord, merci beaucoup. Merci pour l'invitation. Pour d'abord commencer, la scarification, c'est étymologiquement un mot qui vient du latin scarifa, et qui signifiait inciser légèrement ou bien faire des entailles. Mais maintenant, le mot varie selon les contextes, qu'il soit sociologique, culturel, médical ou bien psychologique. Donc, la scarification, c'est en fait une technique qui consiste, comme je viens de le dire, à faire des incisions sur la peau afin de pouvoir créer des marques permanentes sur la, Donc, c'est une pratique volontaire, délibérée, qu'on décide de réaliser à la naissance du bébé, généralement à partir de 1 ou 2 mois, afin de pouvoir laisser des marques permanentes.
D'accord. Ça commence bien. Oui. On dit souvent que les cicatrices sont comme une carte d'identité. Comment pouvait-on lire l'origine ou les clans d'une personne à travers ces marques?
Ok, merci pour cette question intéressante. Effectivement, par exemple, la scarification avait plusieurs significations selon les ethnies. Si nous prenons par exemple les Bambara, les Malinke ou bien les Kasonke, la scarification permettait d'identifier la personne. Donc elle permettait de lier une personne à un clan, à ses origines ethniques ou bien à ses origines familiales. Par exemple, si nous prenons le cas express par exemple des Kasonke, si on a par exemple des scarifications qu'on appelle Balafra en Kasonke, ou bien encore Tamafarawuro. Il s'agit en fait des balafres verticales et longues, trois sur chaque côté du visage. Bon, par exemple, les Kasonke sont le fruit des métissages entre les Peuls et les Malinke. Maintenant, autrefois, c'était les temps de conquête, les temps de guerre. Donc, pour, par exemple, éviter de tomber sur, par exemple, une troupe amie, donc quand il y avait ces traits, ça pouvait permettre d'identifier l'ennemi. Mais maintenant, les balafres aussi en Kasonke permettaient de nuer les mariages entre différentes familles. Par exemple, si nous prenons une province, par exemple, comme le Tomora, avant, c'était des signes portés très, très, très généralement par les nobles, ok? Donc c'est les nobles qui portaient ces signes-là. Voilà, donc ça pouvait permettre d'identifier la personne. Vous savez, nous sommes dans une société encore fortement stratifiée. Voilà, souvent les mariages entre clans, en tout cas au Rasso, c'est pas, sans, les mariages ne se fait pas comme ça. Voilà, c'est des mariages généralement entre clans. Donc à travers les scarifications, on pouvait savoir que c'est quelqu'un à qui je peux donner ma fille en mariage ou bien c'est à quelqu'un à qui je ne peux pas donner ma fille en mariage. Maintenant, les filles aussi, ok, portaient ces balafres-là en milieu Kasonke. Voilà, donc quand tu vois une fille, ok, qui porte ces balafres, ça veut dire que la fille a atteint l'âge mature.
Mais est-ce qu'il est possible de situer l'origine de ces scarifications-là au Mali? Est-ce que c'est présent dans toutes les communautés où il y a des communautés spécifiques qui font la pratique?
Oui, ces scarifications, je crois, sont un peu présentes au Mali, même presque dans plusieurs sociétés africaines. Voilà. Maintenant, par exemple, si nous prenons le sud du Mali, les Bambara, les Malinke, les Kasonke, nous avons ces scarifications. Mais si nous prenons, par exemple, même si les Kasonke, c'est présent peut-être dans des milliers, mais dans d'autres milliers, ce n'est pas présent. Par exemple, dans le Tomora, dans le Sidibela, par exemple, en milieu Kasonke, nous avons la présence des scarifications. Mais par exemple, dans le Logo ou bien dans le Hawademba, les scarifications ne sont pas présentes. Maintenant, c'est le Peul, nous avons aussi la présence des scarifications. Donc, certaines scarifications, c'est le Peul, sont liées à la beauté esthétique.
Absolument.
Voilà. Maintenant, dans d'autres milieux, par exemple en Afrique, c'est les Yoruba, par exemple au Nigeria, ce qu'on appelle tribal marks sont bien présentes au Nigeria. Et ça permet, ok, comme j'ai dit, l'appartenance familiale. Ces scarifications-là jouaient aussi un rôle important en cas de perte et d'esclavage. Si nous prenons, par exemple, des peuples comme aussi les Dinka au Soudan du Sud, donc nous avons la présence des scarifications qui signifiaient que la fille a atteint l'âge adulte et peut donc contracter un mariage.
D'accord. Traditionnellement, comment étaient gérés les aspects sanitaires lors des incisions pour éviter les complications?
Merci. La scarification traditionnelle comportait vraiment beaucoup de risques. Donc, on peut dire que presque les précautions n'étaient pas prises pour en fait prévenir des infections graves, des complications, des contaminations de maladies comme le tétanos, de l'hémorragie, des traumatismes, puisque la douleur était vraiment intense, puisqu'on pratiquait la scarification sans anesthésie. Donc, on peut donc dire, sans grand risque de se tromper, que voilà, des précautions n'étaient vraiment pas prises afin de prévenir les complications.
D'accord. On observe que les jeunes générations portent de moins en moins ces marques. Selon vous, quels sont les principaux facteurs de ce recul?
Ok, effectivement, c'est une pratique qui tend à disparaître. Par exemple, chez nous, je crois que la dernière génération qui porte ces marques-là, ils ont aujourd'hui à peu près entre 80 et 90 ans.
Ça fait vieux.
Maintenant, il y a plusieurs facteurs. Il y a plusieurs facteurs qui peuvent expliquer cela. Donc, nous avons les dangers sanitaires. Ok, ces dangers sanitaires expliquent en grande partie pourquoi ces pratiques tend à disparaître. En plus, nous avons d'autres facteurs comme l'éducation, ok, comme la sensibilisation sanitaire,
ok, comme et l'aspect esthétique aussi.
Il y a aussi l'aspect esthétique. Il y a aussi l'influence des religions nouvelles, le christianisme et l'islam. Il y a les cadres juridiques, notamment les lois sur la protection de l'enfance. Ok, donc il y a l'évolution en fait aussi des mentalités. Donc il y a l'évolution des mentalités, tous ces facteurs font aujourd'hui que c'est une pratique qui tend à disparaître.
Okay. Merci M. Djanka pour ces premières réponses. Nous allons marquer là une petite pause musicale pour vous permettre de souffler.
Absolument Aïcha, et pour la seconde sélection musicale, nous allons partir au Rasso, retrouver la voix d'or Mangala Camara, et il chante ici Dolomani.
Date de sortie de ce morceau signé Mangala Camara.
Quand je réfléchis à l'homme, faut salimou. Ah, salimou, je t'en ai. Si vous venez de prendre le train en marche, sachez que vous suivez l'émission Culture de Stéjo Tamani, le club de Tamani, et nous parlons ce soir de scarification. Et nous allons continuer avec l'invité qui, je rappelle, est Dr Baladjanka. Il est enseignant-chercheur et écrivain à Echa.
Oui, là. Et on parle aussi, Monsieur Djanka, de scarification à visée thérapeutique ou mystique. Existe-t-il encore des pratiques de scarification liées à la protection ou à la guérison?
Effectivement, la scarification avait aussi des fonctions mystiques. C'est-à-dire, on pensait, par exemple, que si on porte des signes, ça pouvait nous protéger contre des mauvais esprits. Mm-hmm. Voilà. Donc, il y a ces scarifications-là à présent qui existent dans certains milieux. Mm-hmm. Par exemple, en milieu Bambara ou bien en milieu Rasonke. Nous avons, par exemple, le Diawara Telo, qui est une variante beaucoup plus petite du Tamafara Woro, aussi réalisé soit sur le front, soit sur la tempe. Voilà, donc quand on porte ces signes, on pensait, à présent on continue de penser que ça pouvait nous protéger contre les mauvais esprits.
Oui, souvent on voit des enfants qui ont des trois traits sur le front.
Oui. Effectivement, effectivement. Ça a une fonction spirituelle.
D'accord. Alors, à l'inverse, on voit dans certains pays occidentaux une réappropriation de la scarification comme un art corporel moderne. Est-ce la même pratique ou quelque chose de totalement différent?
Effectivement. Des nouvelles formes de scarification, comme par exemple le tatouage, peuvent être considérées comme une nouvelle forme d'expression identitaire. Mm-hmm. Mais dans un cadre beaucoup plus sécurisé.
Absolument.
Voilà. Donc, c'est une réappropriation de la scarification. On utilise des instruments stérilisés, des instruments modernes, avec un plateau sanitaire assez élevé, pour pouvoir en fait prévenir les risques liés à la guérison.
Okay.
Car la scarification traditionnelle, comme je l'ai dit, pouvait même créer des cicatrices anormales.
Okay.
Voilà, au lieu d'atteindre les objectifs. Par exemple, il ne faut pas l'oublier aussi, la scarification avait des buts pour rendre belles, par exemple, les femmes.
Mm-hmm.
Mais lorsque ça va créer des cicatrices anormales, au lieu de rendre belles, ça va produire l'effet contraire.
Mm-hmm.
Voilà. Donc maintenant, dans des pays développés, on se la réapproprie en pratiquant toujours la technique, mais avec des matériels beaucoup plus conventionnels et qui a moins de risques.
Dans un cadre beaucoup plus propice.
Voilà, dans un cadre beaucoup plus sécurisé et propice.
Mm-hmm. Mais pas sur le visage.
ils le font sur le visage. Hein.
Ouais.
J'ai vu des photos, oui, des images.
Effectivement, il y en a qui le font sur le visage, sur les bras.
Okay.
Voilà.
Monsieur Dianka, pensez-vous que la scarification puisse disparaître totalement ou va-t-elle survivre sous une autre forme?
Je pense que la scarification va survivre, mais sous une autre forme. Nous aurons d'autres formes d'expression identitaire. Comme je viens tout de suite de le dire, la dernière génération qui porte ces marques chez nous, ils ont à peu près entre 80 et 90 ans.
Un siècle.
Voilà, entre 80 et 90 ans.
Mm-hmm.
Et maintenant, les femmes, ce qu'elles réalisaient aussi, par exemple, sur les lèvres, sur les gencives, faites généralement par les grands-quais.
Mm-hmm.
De plus en plus maintenant, les femmes hésitent à les faire parce qu'il y a le risque de transmission de maladies, voilà, comme le sida et d'autres types de maladies. On pense que les instruments utilisés ne sont pas stérilisés. Donc les gens sont de plus en plus méfiants. Donc on peut dire que c'est une pratique qui avait une grande fonction culturelle, sociale et spirituel, mais qui tend à disparaître à cause de l'évolution des mentalités et des risques sanitaires liés à la pratique.
Merci une fois de plus, Dr Dianka, pour toutes ces précisions. Mais nous restons ensemble, car l'émission n'est pas encore finie, Aïcha.
Et oui, là, nous prenons le chemin des stades.
Et comme tous les vendredis, Khalifa Goïta est avec nous dans ses studios. Il va nous détailler l'actualité de la semaine sur le plan sportif. Khalifa, bonsoir.
Bonsoir Lala, bonsoir chers auditeurs.
Alors, qu'est-ce qui fait l'actualité cette semaine?
Les dates des prochaines CAN seniors et cadets sont connues. Issa Sidibé est élu président de la Ligue de football du district de Bamako. Et puis on parlera du programme des huitièmes de finale de la Coupe du Mali.
Khalifa, commençons par des nouvelles des Coupes d'Afrique des nations masculines seniors et des moins de 17 ans.
Oui, la 36e édition de la Coupe d'Afrique des nations CAN se déroulera du 19 juin au 18 juillet 2027. La Confédération africaine de football l'a confirmé ce mercredi. Cette édition sera historique car elle sera co-organisée pour la première fois par trois pays d'Afrique de l'Est, à savoir l'Ouganda, le Kenya et la Tanzanie. Les phases de groupe se disputeront au mois de septembre, octobre et novembre 2026. Il faut signaler que cette édition marquera la dernière CAN organisée tous les deux ans. Et puis le tirage au sort de la CAN des moins de 17 ans a eu lieu le mercredi au Caire en Égypte. Le Mali vice-champion lors de la dernière édition est logé dans le groupe C en compagnie de l'Angola, de la Tanzanie et du Mozambique. La compétition se déroulera au Maroc du 13 mai au 2 juin 2026.
Et Khalifa Issa Sidi Béré, lui, après un nouveau scrutin au poste de président de la Ligue de football du district de Bamako.
Réélu pour un mandat de 4 ans, le président sortant Issa Sidi Béré a obtenu 23 voix contre 9 pour son challenger Abdallah Babi. Ces nouveaux votes tenus le mardi faisaient suite à l'annulation d'une première élection par la commission d'appel des élections de la FEMAFOOT après un recours introduit par le camp adverse. Le nouveau bureau dirigé par Issa Sidi Béré est composé de 19 membres, dont une femme.
Et les huitièmes de finale de la 65e édition de la Coupe du Mali ont débuté cet après-midi.
En ce moment même, l'AS Real affronte Yélé Olympique au stade Mamadou Konaté. Demain samedi, d'autres matchs sont prévus dans l'après-midi, notamment Isfas Espérance de Médine, Eloidi FC Diara et stade malien de Bamako Asco. Le dimanche 12 avril, une seule rencontre se disputera, à savoir Binga FC et FC Mali Koura. Les trois derniers matchs sont prévus le mercredi 15 avril, Al-Farouk de Tombouctou jouera contre AS Sofa à 15h30. À 16h, Djouliba AC, Kankou FC et AS Bakaridja à venir AC. C'est tout pour aujourd'hui, Lala Touré.
Merci beaucoup, Khalifa, et à la semaine prochaine. Plaise à Dieu. Et Aïcha, nous partons en musique à présent.
Nous allons écouter le prince de la Koura Sidiki Diabaté dans Doussoukouni, un titre de son album Koura Lover.
Un peu de douceur ne fait pas de mal.
Ah oui.
C'est toi la reine de mon cœur, Ali Ala Sonoma. C'est toi la femme de ma vie, Ali Kira Sonoma. Jaloux c'est Gotola, du Mali au Sénégal, Côte d'Ivoire, la Guinée. C'est toi que j'ai choisi. Du Congo au Gabon, Cameroun, le Niger. C'est toi que j'ai choisi. Mon bébé est validé. Ma bien-aimée. Tu es validé. Ma bien-aimée. C'est à la vie, à la mort, je choisis de t'aimer. C'est toi que je choisis. Mon bébé est confirmé.
Elle est validée. Aïcha, j'ambitionne sérieusement de faire de la musique. Qu'est-ce que tu me conseilles?
Attendons un peu.
Mais il ne faut pas refroidir mes ardeurs.
Laisse ce projet-là.
Il ne faut pas te le faire quand il est chaud.
On va en parler.
D'accord. Je sens que l'invité est d'accord avec moi. Plus d'1 799 000, c'est le nombre de fois que ce tube a été regardé sur YouTube. Il est sorti en 2024 au mois de novembre.
À présent, l'actualité de la semaine en langue nationale Bamanankan.
La revue de la presse.
Aïwa, nisondiale me Adama Amadou Aïdara Soro, kuma sokona kukura, habena dorokun kuna funu wala wala anye tolunkana. Adama inula, ibisimila.
Lala, fasiri fambo kuma na minkan dorokuina. Oye, jamana deo yuka nisongo ya meira, kanyesi bonisu ani kredu tikelikuma. Konsumateru ka jekulu munube, uchamaya iraka foko kredi ani bonisu, ka daka gele, wa akuntakalan fana kasuru. Uya iraka foko reponder fana, kodobe tike kabo mwokun ula. Info matin, aleka kuna funi koloman kundu. Aga kumana, malideon ani telefon sou uye kele damne. Aya iraka afoka be wakati jambo, telefon sou beka malideon tulu bishi makunka. Kredi kumana ta obetge, bonisi tume, internet yere fanabu uchukula. Fasiri ya iraka afofanako, jekulu mini abe fama ko kolektif internet justu mali. Aye bataki do sebeni kochi AMRTP la. Ni oye chake daye minga bara unyeshilendo telefon ko nyene bolima. informatin y'a yira k'a fɔ ko jɛkulu in a ye min ɲini bataki in kɔnɔ o de ye kredit sɔngɔ dɔ ka b'o la ka wagati suru dɔ di k'a fɔ ko n'o sera a be tigɛ u ka dabila ka fara ɛntɛrinɛti ta fana kan ani u k'a kɛcogo la fana min bɛɛ be nimisi wasa sɔrɔ oranje mali y'a yira k'a fɔ ko yɛlɛma donna kow la bamada nɛti y'o sɛbɛ fasiri min be baara kɛ bɔlɔlɔsira kan a y'a yira k'a fɔ ko oranje mali a ye fɛɛrɛ caaman ta o ko la kredit ni bonusi a si tɛ tigɛ bilen Mali 24 ale fana ye fasiri ye min be baara kɛ bɔlɔlɔw kan ale seginn'o kuma kelen kan oranje mali a y'a ɲini teliyala ka nin ko ɲi dansira la sabula ka fara kredit tigɛli kan ɛntɛrinɛti fana da ka gwɛlɛn o fana ma bɛn malidenw ma sabula n'an y'a n'an sigiɲɔgɔn jamana dɔw sanga i n'a fɔ senegal ani cote d'ivoire olu ta da ka di ka tɛmɛ anw ta kan mali 24 ka kuma la faso fasiri ni o ye lesɔr ye a y'a yira k'a fɔ ko oranje mali ye nin fɛɛrɛ min ta o y'a sɔrɔ DGCC ma kila a ka sɛgɛsɛgɛli kunfɔlɔw la fɔlɔ ni ale ye cakɛda ye min ɲɛsilen do jagow ko ɲɛnɛbɔli ma DGCC y'a yira k'a fɔ de ko konsomatɛriw ka asosiasiɔn n'a be fa ma ko askoma k'u kun ye jalakisɛbɛn dɔ ci kredit ko in ale ni bonisi ko in kan o lasa DGCC ɲɛma a y'a ɲini telefɔniso tɔw fɛ u k'u senda oranje mali sendanɔ la jamanadenw ka lafiya kama o bɔra ɛndepandan yɔrɔ o dabɔra walasa ka fɛnw bɛɛ kɛ kelen ye jamanadenw ka lafiya kama wala la nin ne bɛ dan sigi an ka nin dɔgɔkun revue de la presse la
i ni ce i ka ni kunnafoniya jele nunu na n be kan bɛ da ɲɔgɔn ye dɔgɔkun wɛrɛ ni ala ma an ka jɔnya jɔna
pe a pe nous voilà au terme de cette émission mais nous donnons la parole à notre invité pour ses propos conclusifs docteur Djanka
ok donc merci beaucoup merci pour l'opportunité offerte afin de venir parler ce matin de la scarification qui est en fait une pratique avec une grande importance sociale, culturelle et spirituelle, mais qui, de nos jours, qui tend à disparaître. Donc, je vous remercie beaucoup et au plaisir, à la prochaine.
Merci beaucoup. Merci. Et c'est sur ces mots que se referment les portes du club de ce week-end. La scarification, nous l'avons vu avec vous, docteur Djanka, c'est bien plus qu'une trace sur la peau. C'est un lien entre l'individu et sa communauté. Merci à vous, fidèles auditeurs, pour votre écoute attentive. À la coordination, Sekou Gadjigo, mise en nom Noum Djiré. Présentation Aïssata Diarra et Lala Diarra Touré. Prenez soin de vous et des autres et à très vite pour un autre voyage au cœur de la culture malienne.